Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Ni tournant, ni changement de cap, Emmanuel Macron s'est expliqué ce soir sur le remaniement gouvernemental. J'entends les critiques, a confié le président de la République. Un remaniement qui voit l'arrivée de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, un marcheur de la première heure, peu enclin à la rébellion contre le chef de l'État. Dans ce journal, les explications de Louise Baudet et d'Antoine Marette et le commentaire de notre invité, l'historien Christophe Bellon, spécialiste de la vie politique française. Perquisition ce matin au siège de la France Insoumise ainsi que chez Jean-Luc Mélenchon dans une affaire notamment d'emploi fictif présumé. Le chef des Insoumis dénonce, je cite, une opération de police politique. Nous l'écouterons. Sa parole était très attendue après une rentrée calamiteuse, assombrie par l'affaire Benalla et les démissions de trois de ses ministres. Emmanuel Macron s'est exprimé solennellement ce soir lors d'une intervention télévisée enregistrée à l'Élysée. Intervention destinée à clôturer la séquence du remaniement annoncée ce matin. Sur la forme de son exercice du pouvoir, le président reconnaît un soupçon d'arrogance, mais sur le fond, pas question de changer de cap, Louise Baudet.
Mes chers compatriotes,
les drapeaux, le bureau, le ton de l'allocution, tout est solennel, sauf peut-être ces notes raturées en lieu et place du prompteur attendu, mise en scène d'un président qui peut se tromper.
Par ma détermination, ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains, et j'entends les critiques.
Mea culpa sur la forme, mais sur le fond.
Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Soyez patient, dit le président.
Votre quotidien va s'améliorer car le gouvernement est sur la bonne voie.
Mais attention,
cela ne se fera pas en un jour.
Emmanuel Macron décrit des temps troublés, quitte à dramatiser.
Nous ne sommes plus aux temps innocents où l'on parlait de la fin de l'histoire et du tragique, et où l'horizon de la politique était en quelque sorte l'extension de la société de consommation. Non. Le monde se fracture, de nouveaux désordres apparaissent, et l'Europe bascule presque partout vers les extrêmes.
On le dit lointain et arrogant, il promet écoute et dialogue, notamment des corps intermédiaires, des élus, des maires.
Nos maires, qui sont les premiers porteurs de la République du quotidien.
Ultime preuve d'humilité d'un président qui dit avoir besoin de toutes les bonnes volontés.
Louise Baudet, merci. Revenons à présent sur ce remaniement gouvernemental annoncé ce matin, 15 jours tout de même après la démission de Gérard Collomb. Pour le remplacer au ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a choisi le fidèle Christophe Castaner qui abandonne donc les relations avec le Parlement pour rejoindre la place Beauvau. Christophe Castaner, qui sera aidé par un secrétaire d'État très au fait des questions de sécurité, Laurent Nunez, jusqu'à ce matin patron de la DGSI, le renseignement intérieur. Alors Antoine Marette, comment peut-on interpréter cette double nomination ?
Eh bien, comme la preuve qu'aucun profil idéal ne s'est dégagé pour ce poste. Deux personnes au lieu d'une pour un ministère rétréci. Le fidèle Christophe Castaner, pour éviter tout risque politique. L'expert Laurent Nunez, numéro un de la lutte antiterroriste. Nunez n'était pas assez politique, Castaner pas assez spécialiste. Laurent Nunez va tenter de rétablir la confiance entre l'exécutif et la police. Une confiance quelque peu ébranlée avec l'affaire Benalla. L'homme n'a pas d'étiquette politique, mais il est considéré comme loyal à l'exécutif et il est apprécié des syndicats de police. Cet énarque est passé par des postes opérationnels de premier plan. Avant d'être patron du renseignement intérieur, il a été notamment directeur de cabinet à la préfecture de Seine-Saint-Denis, directeur de cabinet à la préfecture de police de Paris et préfet de police de Marseille. Il va être confronté avec Christophe Castaner à deux dossiers sensibles qu'il maîtrise. La menace terroriste, toujours présente, la violence dans les banlieues sensibles liées au trafic de drogue. Deux hommes au ministère de l'Intérieur, c'est une situation quasi inédite. Il faut remonter à 1988 pour trouver un précédent. L'attelage Robert Pandreau, Charles Pasqua, dont on a retenu la célèbre phrase « Nous allons terroriser les terroristes ».
Antoine Marette, merci. Parmi les autres changements notables dans ce nouveau gouvernement, il y a l'arrivée de Franck Riester au ministère de la Culture, à la place de Françoise Nyssen. Franck Riester, un centriste plus que bienveillant à l'égard d'Emmanuel Macron. À l'agriculture, c'est un ex-socialiste, Didier Guillaume, qui succède à un autre ancien du PS, Stéphane Travert. On retiendra aussi la montée en puissance du MoDem, puisque Jacqueline Gourault hérite d'un grand ministère des territoires, alors que le périmètre de son prédécesseur, Jacques Mézard, était nettement plus rétréci. Le MoDem qui prend aussi le portefeuille des relations avec le Parlement, qui revient à Marc Fesneau, le patron des députés bayrouistes. Invité de ce journal, l'historien Christophe Bellon, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique française. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Christophe Bellon, comment vous jugez ce gouvernement? Est-ce qu'il est fidèle au fameux en même temps macronien et de droite et de gauche?
Écoutez, oui, le maître mot, vous l'avez dit, je le reprends pour moi, c'est la continuité. Une continuité qu'on peut effectivement rattacher à ce que Emmanuel Macron avait promis lorsqu'il a été élu, mais que l'on peut peut-être un peu détailler. D'abord, je dirais qu'il y a un gouvernement qui répond à une structure habituelle que l'on connaît au moins depuis le Front Populaire. On est entre 35 et 40 ministres. Il n'y a pas de révolution en taille, ni en gouvernement resserré, ni en gouvernement élargi. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est à voir. Si vraiment Emmanuel Macron avait voulu changer quelque chose durablement, il l'aurait fait aussi sur la structure des gouvernements. Ce n'est pas le cas. On reste dans la continuité. On garde le cap. En cela, d'ailleurs, il justifie le terme qu'il avait employé lors de la démission de M. Collomb en parlant de péripéties.
Donc il n'y a pas de révolution.
Il n'y a pas de révolution, d'autant que les grands équilibres macroniens sont maintenus. D'abord dans la parité, on a un gouvernement avec 17 femmes, 17 hommes, plus le Premier ministre. Et on est même allé jusqu'au détail, puisque la sortante secrétaire d'État à Bercy, Delphine Gény-Stéphan, a été remplacée au poste de secrétaire d'État par une autre ministre femme, Agnès Pannier-Runacher, et alors qu'on annonçait à ce poste-là Jean-Noël Barrot du Modem. Donc la parité est, je dirais, entièrement respectée. Il y a un autre équilibre dans les grands équilibres macroniens, qui est, lui, respecté également dans le gouvernement. En cela, il y a la bien continuité. C'est l'équilibre entre société civile et politique. On voit que dans les entrants, ils sont 8, on compte 4 membres de la société civile qui vont renforcer les ministres politiques par leur technicité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'Emmanuel Macron avait voulu et il s'y tient.
Ça veut dire qu'il faut encadrer finalement les ministres politiques comme Christophe Castaner?
L'encadrement de Christophe Castaner passe peut-être par une volonté de le seconder sur les questions de sécurité qui ne sont pas spécialement les siennes jusqu'à maintenant. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de 1988. On peut même remonter un peu plus haut. Il y a un autre exemple, celui de Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, auprès duquel François Mitterrand avait adjoint déjà un ministre de la Sécurité, qui était Joseph Franceschi. Donc il y a toujours eu ce souci, certes, non pas d'encadrer vraiment au sens premier du terme, mais de seconder le ministre politique par un technicien qui apportera réellement, comme c'est le cas du secrétaire d'État aujourd'hui, toute sa technicité à un poste clé. Mais l'équilibre entre technicien et politique, je vous disais, est certes réel sur le plan du technicien, il est réel aussi sur le plan du politique, parce que effectivement, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, c'est le renforcement typiquement du politique, c'est un proche, c'est la mission, la vocation du ministre de l'Intérieur que d'être un proche du président. Donc là, on se trouve typiquement dans ce cas de figure.
Ça, c'est une constante de la Ve République. Il faut, le président nomme un fidèle au ministère de l'Intérieur.
Il nomme toujours un fidèle au ministère de l'Intérieur. Il y a eu deux cas un peu plus, deux cas de ministre de l'Intérieur un peu plus secondaires au tout début de la Ve République. Mais sinon, le président nomme toujours un proche. Et en période de cohabitation, c'est le Premier ministre qui nomme un de ses proches. L'exemple d'ailleurs de la nomination de Christophe Castaner est très semblable à ce que on a pu vivre sous le gouvernement de Lionel Jospin, où Daniel Vaillant, qui était déjà ministre des Relations avec le Parlement, est devenu au cours du gouvernement Jospin, pas au départ, est devenu ministre de l'Intérieur. Monsieur Castaner quitte le ministère des Relations avec le Parlement et devient ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'est une concordance des temps qu'on peut souligner, mais il faut jamais perdre de vue que on préfère toujours, dans la nomination d'un ministre de l'Intérieur, la fidélité à sa réelle technicité au moment où il arrive au ministère et dans le domaine où il est nommé.
Christophe Bellon, est-ce que ces remaniements servent à quelque chose? Est-ce qu'ils ont permis par le passé à des présidents de retrouver les faveurs de l'opinion?
Alors, si on regarde l'ensemble des républiques 3, 4 et 5e, on s'aperçoit qu'un remaniement n'a jamais remis en route durablement un exécutif. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'observation. Ça ne veut pas dire que celui-ci ne fonctionnera pas, mais globalement, l'histoire montre qu'il en faut plus. Disons que là, il y a, comme l'a dit l'Élysée, un second souffle à apporter, c'est évident. Donc forcément, pendant un certain temps, quelques semaines au moins, peut-être quelques mois, la perception du nouveau gouvernement aura une conséquence favorable. Mais sur la longue durée, il en faudrait beaucoup pour que, encore une fois, l'exécutif puisse être relancé, car qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, dans ce remaniement, il y a aussi des limites. Les limites, on parlait de l'équilibre entre politique et technicien, mais les limites sont sur l'ouverture. L'ouverture qu'aurait voulu plus grande M. Macron et qui n'est pas arrivé à obtenir. Il n'est pas le premier. Si on regarde les gouvernements Rocard, le gouvernement Juppé, et dans une certaine mesure les gouvernements de Nicolas Sarkozy, donc les gouvernements Fillon, l'ouverture voulue dès le départ a été à un moment donné freinée. Et du coup, les diverses tentatives de remanier n'ont pas porté les fruits escomptés.
Christophe Bellon, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir pour commenter ce remaniement gouvernemental. Et c'est en plein remaniement justement que la justice s'est invitée dans l'actualité politique aujourd'hui. Des perquisitions ont eu lieu ce matin à Paris au siège de la France Insoumise, mais aussi au domicile de son leader Jean-Luc Mélenchon. Perquisitions menées dans le cadre d'enquêtes sur deux dossiers, des soupçons d'emploi fictif autour des députés européens du parti et des anomalies présumées sur les comptes de campagne du candidat Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a médiatisé l'événement en filmant les perquisitions et cet après-midi à l'Assemblée, il a vigoureusement interpellé Édouard Philippe.
Voilà ce que j'ai à vous dire, et c'est encore l'état de droit. Je suis président d'un groupe d'opposition. 7 heures de perquisition, c'est mon chef de cabinet. Vous avez tous mes rendez-vous depuis 2 ans. Vous avez aspiré tous les fichiers du mouvement La France Insoumise et tous ceux du parti de gauche sans que nous ayons signé un seul procès-verbal. Collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Voyez-vous ce que ça veut dire? Vous sentez-vous solidaire de procéder pareil? Ce n'est plus de la justice, ce n'est plus de la police.
Écoutons à présent la réponse du Premier ministre Édouard Philippe.
Monsieur le Président Mélenchon, j'entends dans votre question une émotion et une colère que je crois pouvoir comprendre. Elle est l'émotion et la colère d'un citoyen, en l'occurrence un responsable politique, de bonne foi, qui se trouve confronté à une procédure judiciaire. Mais je veux dire que il ne m'appartient pas, monsieur le président Mélenchon, il n'appartient d'ailleurs, en vérité, à aucun d'entre nous de remettre en cause le texte constitutionnel et le principe fondamental de l'indépendance de la justice.
Voilà pour cet échange musclé entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe à l'Assemblée. À noter que dans cette affaire, la France Insoumise a reçu le soutien à peine voilé du Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen est lui aussi aux prises avec la justice dans une affaire d'emploi présumé fictif au Parlement européen. L'affaire Jamal Khashoggi menace-t-elle la relation privilégiée entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite? En tout cas, Donald Trump fait tout pour en réduire l'impact pour le président américain. Le journaliste saoudien disparu il y a 15 jours au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul a sans doute été victime d'éléments incontrôlés, manière de dédouaner Riyad de toute responsabilité dans cette disparition. Grégory Phillips, une thèse officielle commence à être échafaudée à Washington. Jamal Khashoggi aurait peut-être succombé à un interrogatoire un peu trop musclé.
Cette version d'un interrogatoire qui a dérapé semble donc être la thèse défendue par les autorités saoudiennes, selon CNN et le New York Times qui ont interrogé plusieurs proches du dossier. Si elle paraît peu crédible, cette thèse permet en tout cas d'innocenter notamment le prince héritier Mohammed bin Salman, qui peut faire valoir qu'il n'était au courant de rien. Et depuis Washington hier, Donald Trump a semblé accréditer cette version de l'histoire en arguant que la disparition de Khashoggi pouvait être l'œuvre de voyous ou de tueurs hors de contrôle. Les Américains en réalité sont très embarrassés. Jamal Khashoggi vivait en exil aux États-Unis depuis 2017 et était collaborateur régulier du Washington Post. Preuve de cet embarras, les déclarations contradictoires de Trump qui, il y a quelques jours, avait menacé Riyad d'un châtiment exemplaire, mais expliquait dans le même temps qu'il ne voulait pas perdre les juteux contrats d'armement passés avec l'Arabie Saoudite. Embarras encore avec Mike Pompeo qui, à Riyad aujourd'hui, dit vouloir faire toute la lumière sur cette affaire, mais de manière fort diplomatique, tient avant tout à rappeler les liens très forts entre Américains et Saoudiens. Embarras enfin quand un proche de Trump, le sénateur républicain Lindsey Graham, dit tout à l'heure sur Fox News qu'il est persuadé que le prince Ben Salman, MBS, est un sale type qui a commandité cet assassinat. Une vingtaine de sénateurs, républicains comme démocrates, continuent d'ailleurs de réclamer, suite à la disparition du journaliste, des sanctions américaines contre Riyad.
Grégory Phillips à Washington, cette dernière information sur les négociations concernant le Brexit. Le négociateur européen Michel Barnier serait prêt à prolonger d'un an la période de transition post-Brexit. C'est ce que rapporte ce soir le Financial Times, le quotidien britannique qui cite des diplomates européens. Le temps demain restera anormal pour la saison avec des conditions estivales. Légère amélioration sur le sud-est avec toutefois quelques pluies le matin de l'Hérault à la Provence. Partout ailleurs, le soleil s'imposera sauf sur la Bretagne. Bretagne, où le ciel sera variable, voire faiblement pluvieux. Température minimale de 3 à 18 degrés des vallées de l'Est à la Méditerranée. Les maximales iront de 15 à 25 degrés de la Bretagne au Grand Est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.